Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Coucou. Le mardi 19 juillet 2016, Sierra Jougain rentre chez elle à vélo après avoir passé l'après-midi avec son petit ami Joshua. Celui-ci la suit d'ailleurs sur quelques petits kilomètres à moto pour la rassurer vu que la nuit est en train de tomber et qu'elle doit emprunter des routes qui longent de grands champs de maïs que l'on voit dans n'importe quelle histoire d'horreur. Une fois Sierra rassurée, Joshua lui dit au revoir en l'embrassant et lui demande de l'appeler une fois arrivée chez elle. Sierra repart seule sur la route, toujours à vélo. Ce soir-là, la jeune femme n'arrivera jamais à destination. Sa disparition va mener les enquêteurs vers une véritable antre de l'horreur. Une grange aménagée en donjon pour pervers dans lequel Sierra semble avoir vécu le temps de sa captivité. Problème, au moment où les enquêteurs remontent jusqu'à cette grange, Sierra a une fois de plus disparu. Mais alors, que s'est-il passé entre le moment où Sierra se volatilise et le moment où la grange de l'horreur est découverte? Quel calvaire a vécu la jeune femme et combien de temps est-elle restée enfermée ici? Où est-elle? Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, guys. On se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle cette fois on ne va pas parler de maison de l'horreur, mais de grange de l'horreur. Oui, il y a du changement ici de temps en temps. L'affaire Sierra Jougain qui débute en 2016 par la disparition de la jeune femme et qui va horrifier l'état d'Ohio, mais surtout qui va révolter l'opinion publique lorsque le profil du coupable va fuiter. Je vous en dis pas plus, installez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Volatilisé sur son vélo. Notre histoire prend place aujourd'hui entre Metamora et Delta dans l'état d'Ohio. Je dis bien entre ces deux villes, puisque c'est le chemin que va emprunter Sierra à vélo, vous allez comprendre. Cette zone de l'Amérique, on peut la regarder depuis le satellite de Google, c'est complètement paumé. Il y a des champs à tout va, de longues lignes droites sur des kilomètres comme aiment tant le faire les Américains, et des petites fermes ici et là qui sont habitées par des fermiers très gentils. Certains enferment des jeunes femmes dans leur grange, mais bon, on n'y est pas encore. Ce mardi 19 juillet 2016, Sierra Jougain, 20 ans, passe l'après-midi chez son petit ami Joshua qui vit près de Delta, zone un peu perdue mais parfaite pour faire du vélo. D'ailleurs, Sierra adore pédaler, elle s'est acheté récemment un tout nouveau vélo et prend plaisir à parcourir les routes du comté. Sierra est dans le coin depuis peu puisqu'elle vit chez ses grands-parents à Metamora à 1 heure de vélo de Delta puisqu'elle a été prise à l'université de Tolède, la grande université du coin, et elle a dû quitter le domicile familial puisque sa mère vivait trop loin et ça coûtait trop cher de louer une chambre sur le campus, donc le bon plan était de venir vivre chez papy et mamie le temps de ses études. En cette soirée du 19 juillet, on sait que Sierra part de chez son petit ami Joshua vers 18h45. Elle veut être rentrée pour 20h, histoire de ne pas inquiéter ses grands-parents qui savent où elle est et avec qui, mais une fois la nuit tombée, mamie va pas être rassurée de savoir sa petite fille sur les routes désertes avec son petit short sur un vélo. Par précaution, même si une fois de plus les routes sont sûres et ces dernières années il ne s'est rien passé d'incroyable dans le comté, Joshua décide de raccompagner Sierra. Il roule à côté d'elle en moto sur plus plusieurs petits kilomètres avant de se séparer vers la route du comté sud, juste ici. Mais j'invente pas, c'est le nom de la route, c'est vrai, pourquoi faire compliqué ? Joshua dira plus tard
« Je me souviens exactement de ce que j'ai dit, je l'ai embrassé, je lui ai dit que je l'aimais et je lui ai dit de m'envoyer un texto quand elle rentrerait à la maison. »
De cette petite balade, il existe d'ailleurs plusieurs photos et une vidéo Snapchat dans laquelle on voit le couple rigoler, profiter du soleil de juillet, heureux sur les routes désertes. À ce moment précis, sans le savoir, Joshua était en train de prendre et d'enregistrer les dernier signe de vie de Sierra. Alors qu'il repart en sens inverse, très heureux de sa journée, Joshua ne se doute pas une seule seconde que sur cette même route, dans quelques minutes à peine, Sierra va vivre l'enfer. Et malheureusement, l'alerte ne va pas être donnée tout de suite. Il est 21h30 lorsque Sheila, la mère de Sierra, s'arrête chez les grands-parents. Elle était dans le coin pour le boulot et a voulu faire une petite surprise à sa fille qui n'est toujours pas rentré. Les grands-parents s'inquiètent aussi un petit peu de leur côté, mais n'ont pas voulu déranger Sierra. Voilà, elle a 20 ans, elle passe la journée avec son petit copain, c'est l'été. Si le couple a eu envie de faire une petite pause dans le champ de maïs sur le chemin du retour, ils font bien ce qu'ils veulent, même si généralement, lorsque Sierra est en retard, elle passe toujours un petit coup de téléphone pour ne pas inquiéter ses grands-parents. Il est 22h lorsque le téléphone sonne. La mère répond, et au bout du fil, c'est Joshua qui demande un peu inquiet si Sierra est bien rentrée. Elle n'a pas eu de SMS, elle n'a pas répondu à ses derniers snaps, ne s'est pas connectée sur Facebook. Il trouve ça un peu bizarre et pire, quand il essaie de l'appeler, il tombe sur la messagerie tout de suite. La mère de Sierra lui demande alors depuis quand est-elle partie, puisqu'à ce stade, personne n'est au courant de rien. Joshua répond alors qu'ils ont pris la route vers 18h45-19h, puis qu'il l'a laissée à l'endroit habituel pour qu'elle rentre chez elle tranquillement. Sierra est donc quelque part, seule, sur la route, avec son vélo et sa tenue de sport, depuis 3 heures maintenant. Tous les signaux sont au rouge. Sheila, la mère, raccroche, commence à appeler les amis de sa fille qui, n'ont pas du tout une nouvelle de Sierra. Les hôpitaux, les médecins sont contactés. Il est minuit lorsque la famille de Sheila comprend que quelque chose de grave est en train de se passer. À minuit, le shérif du comté est alerté par la famille et par miracle, il ne répond pas « Oh, pas de panique, elle va bien finir par revenir demain matin, rappelez-moi. » Non, lui aussi ça le tilt, hein, une jeune femme en vélo toute seule sur les routes de campagne avec sa petite tenue de sport, c'est quand même inquiétant. Il envoie donc une équipe dans le coin et la première personne qui est interrogée dans cette affaire, c'est bien évidemment Joshua, le petit ami, qui est la dernière personne à avoir vu Sierra en vie. Parce que bon, son histoire de « voilà, j'ai laissé Sierra partir en vélo, moi j'ai fait demi-tour sur ma moto », bon, faut pas nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Joshua est calme, il explique que non, tout va bien entre eux, qu'ils ne se sont pas disputés, ils sont ensemble depuis 6 ans maintenant, se sont rencontrés au lycée, ont des projets d'avenir après l'université, jamais il ne lui aurait fait de mal. D'ailleurs, il l'a de toute façon raccompagné comme toujours, pour preuve cette photo et vidéo prise sur Snapchat. Joshua fait bonne impression, le shérif lui demande alors s'il veut participer aux recherches. Joshua enfile un pull et part avec l'équipe. Dans le même temps, c'est la famille de la disparue qui est interrogée pour savoir si Sierra avait des problèmes de santé mentale. Est-ce qu'elle était dépressive, par exemple ? Je le dis souvent, mais les crises, ce petit laps de temps pendant lequel la personne a un unique objectif, s'enlever la vie, peut subvenir n'importe quand. La mère de Sierra explique que non, tout va bien avec sa famille, elle aime faire du cheval, réussit très bien ses études, a même un job à temps partiel dans l'entreprise de son oncle pour gérer les ressources humaines, elle adore les animaux, a un très bon groupe d'amis, et ses grands-parents chez qui elle vit n'ont rien remarqué de bizarre dernièrement. Sierra Jougain n'a aucun ennemi ni d'ex-petit ami qui pourrait lui vouloir du mal. Avec l'aide de Joshua, les enquêteurs vont alors refaire le trajet emprunté ce soir-là jusqu'au moment où le couple s'est séparé, puis ils vont continuer de suivre la route que Sierra aurait normalement dû emprunter et, quelques centaines de mètres après le point de séparation du couple, l'un des agents remarque tout de suite que quelque chose ne va pas. Sur le côté, le champ de maïs qui longe la route est bizarre, il semble avoir été écrasé, comme si quelqu'un avait marché à travers. Il y a aussi une forte odeur d'essence, comme si on avait voulu brouiller une odeur humaine par exemple. Suivant le chemin écrasé, l'enquêteur découvre une paire de lunettes de soleil et un vélo. Joshua est appelé et sans aucune hésitation, il identifie ce vélo comme étant celui de Sierra. Ce qui inquiète plus que tout le shérif et ses hommes, c'est que sur ce vélo, il y a du sang sur les poignets et la selle. Une chaussette et un tournevis sont également retrouvés sur cette espèce de scène de crime, si on peut appeler ça comme ça. Tous deux également couverts d'éclaboussures. Problème, même s'il y a le vélo et du sang, il n'y a pas de corps. La première hypothèse est que Sierra s'est battue avec son agresseur. Elle a été blessée et celui-ci a voulu rapidement cacher son vélo et les divers objets dans le champ de maïs, ne pensant pas que les recherches seraient lancées si vite. L'affaire passe de disparition inquiétante à un enlèvement.
Ce qui est une bonne nouvelle puisqu'on considère que Sierra est en vie et qu'elle a été enlevée. Bon alors maintenant, il faut la retrouver.
Demain matin, tous les habitants du coin vont se réveiller avec la même nouvelle sur leur radio. Tous, sauf une personne, Sierra Jougain, qui elle aussi se réveille au petit matin. Le visage maquillé par du sang séché. Elle a autour d'elle un matelas gonflable, une caisse, des chaînes, des menottes. Elle se rend très vite compte qu'elle est attachée dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Quelqu'un arrive. Le calvaire de Sierra. Au petit matin, alors que les recherches pour la retrouver prennent de l'ampleur, Sierra se réveille complètement sonnée. Elle a un mal de crâne abominable. La dernière chose dont elle se souvient, c'est qu'elle était sur son vélo, en train de longer le champ de maïs, toute contente, et d'un coup, elle a vu un type sortir, puis elle a senti un choc sur la tête, et c'est le trou noir. Au petit matin de ce mercredi 20 juillet, Sierra comprend tout de suite qu'elle est séquestrée. On est en 2016, elle a déjà vu diverses émissions de faits divers, des histoires vraies. Elle a même parfois sur YouTube des recommandations parlant de ces sujets-là. Elle regarde autour d'elle et comprend que la pièce a été aménagée pour la recevoir. Et faut bien s'imaginer ce que se dit Sierra à ce moment-là. Entre le choc, la terreur, elle se dit que « mais c'est pas possible, ça peut pas lui arriver à elle ce genre de truc ». D'un coup, quelqu'un arrive. Le mur de bottes de foin qu'elle a en face d'elle sert à diviser la grange. Elle est ensuite simplement cachée derrière de grosses bottes de foin que le ravisseur retire pour entrer dans son antre. Cet homme qui entre, Sierra ne le connaît pas, jamais elle ne l'a croisé dans le coin. L'homme lui explique très vite que tout va bien se passer, il veut juste profiter d'elle un petit peu. Et après, il la relâchera. Pas de panique, il a tout prévu pour qu'elle passe le meilleur séjour possible dans son antre. Matelas, eau, nourriture et même des couches pour adultes, puisqu'il n'y a pas de toilette. Sierra emportera durant sa captivité. Très vite, la jeune femme comprend d'ailleurs qu'il est impossible de résister ou de se débattre. Le ravisseur est assoiffé, c'est un pervers qui ne recule devant rien. Il a préparé toute une boîte d'objets pour adultes qu'il va utiliser sur elle au fil des heures. Cet homme, Sierra ne l'a effectivement jamais vu puisqu'il vit principalement ici dans sa ferme. Cet homme, il s'appelle James Worley.
Et vous allez sûrement vous demander ce qu'il fout en liberté après avoir découvert son histoire.
James Worley, il naît en 1959. C'est un gars qui est décrit comme un peu bébête. Il réussit pas bien à l'école, échoue aux différents examens et a une enfance misérable. Son père est alcoolique, il frappe sa mère. Assez jeune, ses parents divorcent. Sa mère se remet malheureusement avec un homme violent et James part vivre avec son père. Adolescent, il fait des petits boulots dans les fermes du coin. Il jardine, aide les fermiers, se fait son petit salaire à la fin du mois qui lui permet de vivre et se fait embaucher comme homme à tout faire sur les foires du comté.
James, il fait parler de lui pour la toute première fois en 1990 et pas pour rien, vous allez voir. On est à ce moment-là 6 ans avant la naissance de Sierra.
James, qui travaille dans les champs alentours, a remarqué depuis quelque temps une certaine Robin Gardner qui, tout comme Sierra, 26 ans plus tard, aime faire du vélo sur les routes du comté qui sont vides la plupart du temps, surtout l'été. Le 4 juillet 1990, alors qu'elle fait du vélo, Robin se sent bizarrement suivi par un 4x4 rouge. Le conducteur semble l'observer depuis plusieurs centaines de mètres et surtout ne la double pas. D'un coup, Robin sent que le 4x4 se rapproche dangereusement jusqu'à frotter sa roue de vélo arrière. La jeune femme perd l'équilibre et chute lourdement. Robin a à peine le temps de reprendre ses esprits que le conducteur du 4x4, James Worley, vous l'avez compris, sort en vitesse du véhicule et se précipite sur elle, un marteau dans la main pour lui abattre sur le crâne. Par chance, Robin a la tête dure, elle ne perd pas connaissance, mais ça lui pique pas mal sur le moment, vous imaginez bien. James attrape alors la jeune femme, la menace de la tuer si elle se met à hurler en lui mettant un tournevis sous la gorge, puis la balance dans son 4x4 et commence à lui passer les menottes, profitant de son état de choc. Par chance, au même moment, un motard qui passe dans le coin remarque le 4x4, le vélo, le conducteur, la jeune femme qui pleure. Il s'arrête derrière. Robin le remarque, se débat de toutes ses forces et sort du véhicule en hurlant autant que possible. Ce jour-là, le motard conduira Robin à l'hôpital le plus proche alors que le 4x4 prend la fuite. La jeune femme souffrira d'une fracture du crâne et d'une commotion cérébrale et malgré la violence, elle n'a pas perdu connaissance et a trouvé la force de s'enfuir du véhicule. Une plainte sera bien évidemment déposée et après enquête, Robin identifiera formellement James Worley comme étant son agresseur. Et là, on se dit que vu la violence des faits, James va prendre une peine exemplaire, il va être suivi, on va tenter de le soigner, parce que bon, il est quand même rentré dans le vélo d'une jeune femme, lui a sauté dessus à coups de marteau pour essayer de l'enlever. Voilà, il faut faire quelque chose de ce type, on va quand même pas le relâcher comme ça dans la nature sans aucune surveillance. Vous êtes prêts ? Respirez un grand coup, on y va.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Eh bien, James, il va être condamné à 10 ans de prison et ressortira après 3 années de détention. Il ne sera pas plus suivi que ça pour cette attaque. James ressort parfaitement libre. La justice estime qu'il a payé son dû et il a le droit de vivre la vie qu'il souhaite. Alors James se met à vendre de la marijuana, il en fait pousser dans sa ferme, puis revend des armes. Il n'est fiché nulle part pour l'attaque de Robin, qui s'est passée à quelques kilomètres à peine de là où Sierra va être enlevée 26 ans plus tard. C'est-à-dire que si à l'époque James Worley avait été fiché, voilà, les enquêteurs du comté qui sont mis sur l'affaire de Sierra auraient juste eu à regarder leur liste pour savoir quel taré habite dans le coin, se rendre chez James et sauver Sierra. Mais du coup, c'est pas le cas et James, il va avoir des heures et des heures devant lui pour faire subir à Sierra tous les fantasmes qu'il n'a pas pu faire subir à Robin. James, qui a d'ailleurs été vu par des psychiatres lors de sa première tentative d'enlèvement il y a 26 ans, et a été diagnostiqué comme paranoïaque, narcissique, avec des tendances dépressives. Il a même déclaré à l'époque avoir
« appris de cet enlèvement ».
Dans le même temps, alors que Sierra vit ses premières heures de calvaire, les enquêteurs au petit matin du 20 juillet commencent à lancer des appels à témoins et tentent de géolocaliser le téléphone de Sierra, qui a borné pour la dernière fois près de son vélo dans le champ de maïs. Depuis, il ne donne plus de signal. La police d'État de l'Ohio, qui a plus de moyens que le shérif du comté, est appelée en renfort. Un hélicoptère à vision infrarouge est déployé, voir si Sierra est blessée quelque part. Son corps va ressortir à la caméra. Mais rien. Et l'enquête avance plutôt bien durant cette toute première journée de recherche. On découvre par exemple des empreintes de pneus dans le champ de maïs qui correspondent à une moto et non à celle que vous avez dans votre slip après une dure journée. Un casque de moto ensanglanté est également retrouvé. Après analyse, le sang correspond au groupe sanguin de Sierra. Joshua est de nouveau interrogé, c'est un motard, il dit avoir accompagné Sierra en moto et comme par hasard, il a fait une petite vidéo juste avant la disparition de Sierra. Le jeune homme s'énerve, jamais il n'aurait fait de mal à sa petite amie. Il autorise les enquêteurs à fouiller son appartement sans mandat de perquisition pour prouver sa bonne foi. Et ça la fout mal parce que chez Joshua, on retrouve une combinaison qui est ensanglantée. Alors je vous laisse imaginer le regard qu'ont tiré les enquêteurs quand ils ont découvert, dans le placard de Joshua, un espèce d'habit de chasse avec du sang. Heureusement, vu qu'on est en plein dans l'enquête, le sang est rapidement analysé et c'est du sang animal. Joshua est mis de côté et on lui demande s'il veut participer aux recherches.
Au même moment, à seulement quelques kilomètres de là, James fait sa vie. Il mange avec sa mère qui vit avec lui à la ferme. Sierra ne peut rien faire, James a parfaitement préparé son donjon il y a quelques mois. Comme je vous le disais, il a coupé la pièce en deux avec des bottes de foin pour isoler phoniquement. Il a installé des chaînes solidement attachées pour être sûr que sa future captive ne puisse pas s'enfuir. Et surtout, il a installé des caméras de surveillance sur sa propriété qu'il peut regarder de temps en temps depuis l'application de son téléphone et sur son ordinateur pour être sûr qu'il n'y a pas une armée de flics qui entoure la grange pendant son absence. Sauf que James a fait une erreur le jour de l'enlèvement de Sierra. Oui, il a bien prévu son coup. En début de soirée, route déserte, une jeune femme à vélo, il l'avait certainement repérée dans la journée et savait qu'elle allait repasser par cette même route pour rentrer chez elle. Mais le jour de la disparition de Sierra, James fait une erreur. Il est vu sur les routes de campagne en train de rouler comme un fou au volant de sa camionnette. Pour faire quoi? Pour aller où? Personne ne le sait vraiment, sauf une femme qui dit que cette même camionnette a tenté de le renverser pour la faire sortir de la route alors qu'elle était en vélo. Certains témoins qui croisent la camionnette ce jour-là vont noter la plaque d'immatriculation et même Joshua dira aux enquêteurs avoir croisé cette camionnette alors qu'il était en train de rentrer chez lui sur sa moto. Par contre, à ce moment-là, on sait ce que fait James. Soit il quitte la scène de crime, soit il s'y rend pour tenter de la nettoyer. Mais en tout cas, au moment où Joshua croise la camionnette, Sierra est en train d'être enlevée. Grâce à la plaque d'immatriculation, les enquêteurs remontent donc jusqu'au propriétaire de la camionnette et se rendent chez lui. Et la JVF aurait pu s'arrêter là, mais non. Voyant les enquêteurs arriver chez lui, James se calme, il explique sans aucun souci que oui, c'est bien lui que les gens ont vu avec sa camionnette roulant à vive allure le soir de la disparition de Sierra, c'est vrai. En fait, il explique que sa moto est tombée en panne. Il a donc appelé son frère pour qu'il vienne le chercher et pendant qu'il attendait en sécurité dans le champ, il a remarqué justement que des tiges de maïs étaient cassées. En regardant de plus près, voir si quelqu'un était dans le coin, il a trouvé deux vélos. Donc, plutôt que d'attendre son frère, il lui a finalement dit de ne pas venir, que c'était bon, et il est rentré chez lui avec l'un des vélos trouvés dans le champ. Il a pris sa camionnette et s'est dépêché de venir reprendre sa moto, manquerait plus qu'on lui vole. James explique aux enquêteurs qu'il a laissé des objets lui appartenant dans le champ avec la panique de la panne, la nuit, etc. Il a dû laisser un gant, peut-être même son casque. Bon, les enquêteurs notent dans leur rapport que James semble parfaitement honnête. Alors il a quelques contusions ici et là, mais bon, rien de bien inquiétant. Merci monsieur pour votre collaboration. Et les enquêteurs s'en vont puisque de toute façon ils n'ont pas accès aux antécédents de James, donc il le laisse tranquille. C'est le seul moment où les enquêteurs du comté auraient pu sauver Sierra. Le sauvetage du FBI. Contactés par le shérif du comté, les équipes du FBI vont bien évidemment accepter d'apporter leur aide pour retrouver Sierra. Elle a maintenant disparu depuis 72 heures, on est toujours dans le frais et elle peut être en vie quelque part. Alors, les agents du FBI font une chose très simple, ils consultent leur base de données qui va leur fournir les noms de tous les délinquants violents connus et vivants dans le coin. Les enquêteurs locaux n'ont pas accès à cette base poussée. Très vite, dès la première recherche, un nom ressort, James Worley. Et là, ça tilte chez les enquêteurs. James Worley, c'est le type à la camionnette qui était près de la scène de crime, qui dit avoir volé un vélo, qui explique avoir perdu ses objets, les mêmes que l'on retrouve sur la scène. Un mandat de perquisition est émis. Le FBI se rend sur la propriété de James le 22 juillet, 3 jours maintenant après la disparition de Sierra. Et tout va aller très vite. En voyant cette fois le FBI arriver chez lui, James est en panique. Il parle beaucoup, très vite. Oui, le casque de moto retrouvé près de la scène de crime est le sien. Oui, il accepte que le FBI fouille la propriété qui est vaste. Il y a plusieurs granges, plusieurs bâtiments abandonnés. Il y a du boulot, mais le FBI a un mandat.
on a le temps. Arrivé devant l'une des granges, le FBI découvre un atelier d'apparence standard avec des bancs, des outils, diverses pièces de véhicules. Mais James parle beaucoup, comme s'il voulait déconcentrer les agents, les empêcher de regarder trop près. Jusqu'au moment où l'un d'eux remarque cette caisse qui est collée au mur de bottes de foin. Il l'ouvre et y découvre plusieurs paires de sous-vêtements féminins, certains couvert de sang. C'est de la lingerie, comme si James en collectionnait pour, par exemple, les faire porter à certaines de ses victimes. Et le FBI comprend très vite, hein, ils ont l'habitude de ce genre de tarés et ils ont même des cours pendant leur formation pour les reconnaître. Par précaution, James est menotté. Les agents du FBI enlèvent alors certaines bottes de foin pour découvrir derrière celles-ci son donjon de l'horreur qui est vide. À l'intérieur de la pièce cachée, on découvre du ruban adhésif usagé sur lequel il y a des touffes de cheveux, des cordes, des gants, le fameux matelas. Un congélateur est également découvert, branché à moitié enfoui dans la terre. Les agents du FBI l'ouvrent et le découvrent parfaitement propre. Il pue l'eau de Javel, mais toujours aucune trace de Sierra. James ne parle plus, se dit innocent, il n'a rien fait, ne comprend pas ce qu'il se passe. Tout ce que je vous ai décrit au début du calvaire de Sierra est découvert à ce moment-là. Les attaches zippées, les couches pour adultes, les jouets. À l'intérieur de la camionnette de James, on découvre également une gazeuse, un masque de ski, des attaches. James est conduit au commissariat, interrogé durement. Il continue de dire encore et encore qu'il ne sait pas où est Sierra, qu'il n'a rien à voir là-dedans, que sa pièce secrète, c'est pour créer un studio dans lequel il aimerait filmer des vidéos pour adultes. Mais ce qui inquiète le plus les agents du FBI, c'est que James est un véritable pervers qui se cache, qui ne montre pas son vrai visage. Pour le découvrir, il faut se plonger par exemple sur son historique de navigation. Le jour de la disparition de Sierra, il recherche des termes tels que adolescente attachée, baillon, autostoppeur, pour trouver des vidéos qui lui conviennent. La propriété est complètement retournée. Les agents du FBI, aidés de chiens, cherchent à retrouver Sierra, qui est peut-être retenue dans une autre pièce secrète caché sur la propriété. À 18h, un bénévole qui lui aussi cherche dans les alentours appelle le bureau des enquêteurs pour signaler qu'à quelques kilomètres au sud-ouest de la propriété, il vient de trouver de la terre fraîchement retournée. Une équipe est envoyée sur place. 60 cm, il faudra creuser. 60 cm seulement, sous cette terre retournée, pour retrouver le corps de Sierra Jougain. La jeune femme a les poignets et les chevilles attachées. Elle est complètement ligotée, porte une couche et a un jouet en plastique dans la bouche qui a fini par l'étouffer. La cause de la mort est l'asphyxie. Au vu de l'état du corps, avec la terre, la nature, etc., aucune preuve d'abus sexuel n'est découverte sur elle et il n'est pas possible de déterminer exactement quand Sierra a été asphyxiée. Je pense personnellement que lors de la première visite des enquêteurs concernant sa camionnette, James a paniqué. Il a étouffé Sierra, toujours de manière perverse avec le jouet en plastique, a dû la congeler puisque par la suite le congélateur est nettoyé lorsque les agents du FBI arrivent et voyant que la situation était en train de lui échapper, il l'a enterrée un peu plus loin à 60 cm sous terre comme s'il voulait venir la rechercher à un moment ou un autre. Si l'équipe du shérif avait eu accès à la base de données des délinquants du coin, Sierra aurait certainement pu être sauvée. Dès leur première visite, James Worley est alors accusé de meurtre, d'enlèvement, d'agression criminelle, de falsification de preuves et d'abus de cadavres. Malgré les preuves accablantes qui lient James au meurtre de Sierra, il décide de plaider non coupable. Il a rien fait, il sait pas comment l'ADN de Sierra s'est retrouvé dans sa grange, ni qui a construit cette espèce de donjon. Ça tombe, c'est un tueur en série qui est venu au printemps faire son nid et puis voilà qui est ressorti cet été pour attaquer Sierra. Mais tout joue contre James et surtout les preuves ADN. Enfin, je veux dire, on retrouve carrément l'ADN de Sierra sur son casque de moto, preuve qu'il l'a frappé avec pour la faire tomber de vélo. Un gant en latex est découvert dans le champ de maïs, deux ADN sont dessus, celui de Sierra et celui de James. Absolument
toutes les preuves retrouvées dans l'antre de James contiennent l'ADN de Sierra. Le ruban adhésif, les attaches zippées, une corde, un masque de ski qui sort d'ailleurs de nulle part. Au vu de l'horreur des faits, le procureur de l'Ohio demande à ses équipes qu'un procès express soit organisé. Il demande la peine de mort. En début d'année 2018, le procès de James Worley s'ouvre. Il plaide toujours non coupable. L'accusation attaque très fort. Tout ce que je vous ai présenté dans cet HVF et qui vous a permis de vous faire un avis sur James est présenté. Il est décrit comme un tueur sadique qui aime faire mal, aime voir la peur dans les yeux de ses victimes. Il est narcissique, se croit meilleur que tout le monde et persuadé de s'en sortir malgré tout. Les psychiatres le décrivent comme dangereux à tel point que s'il était remis en liberté d'ici quelques années, il recommencerait certainement à nouveau. On affiche également au tribunal l'historique de navigation de James où il cherche des vidéos d'adolescentes quelques heures avant l'enlèvement de Sierra. Le scénario, tout ce qu'a vécu Sierra et que vous avez découvert juste avant est également présenté. Les avocats de James, de leur côté, y vont cash. Toutes les preuves ne sont que circonstancielles. Rien n'est solide, l'accusation a simplement imbriqué des faits ici et là pour que l'on pointe du doigt ce pauvre James. Les avocats sortent même de leur poche un témoin qui dit avoir vu le soir de l'enlèvement de Sierra un homme aux shorts rouges. Et si James est le coupable du meurtre de Sierra, eh ben pourquoi on retrouve pas de shorts rouges chez lui? Hein? Est-ce que vous pouvez me le dire? J'invente pas, c'est vraiment la défense de James, voilà, quelqu'un a vu un homme à short rouge, si le tueur est l'homme au short rouge, et ben ça ne veut rien dire, même moi je comprends pas ce que je suis en train de raconter. Et puis James finit par changer ce qu'il raconte, alors au final il était au courant de ce donjon qu'il avait caché dans sa grange, c'est normal, c'est lui qu'il l'a construit parce qu'il voulait un studio pour filmer des vidéos pour adultes. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jour de l'enlèvement de Sierra, il cherche des vidéos de jeunes femmes, voilà, menottées, bâillonnées, prises en autostop. Bien évidemment, la défense évite de dire que le terme qu'a recherché James, c'est pas jeune femme, c'est adolescente. Sinon, cela foutrait mal. Le 26 mars 2018, le jury se retire pour délibérer et la tension monte rapidement lorsqu'après quelques heures, ils ne reviennent pas, signe qu'ils ne sont pas d'accord sur le verdict. Il faudra attendre 2 jours, 48 heures, pour que le 28 mars, le jury revienne avec une décision et déclare James Worley coupable du meurtre de Sierra Jougain. Le mois suivant, la peine de mort est confirmée. James décide alors de faire une déclaration disant qu'il est totalement innocent, qu'il a été piégé, que quelqu'un a bien tué Sierra sur sa propriété sans aucun doute, avec ses propres objets lui appartenant, mais c'est pas lui, il n'a rien fait et la justice se trompe. Il s'adresse également à la famille disant que Sierra était une belle et jolie fille et que sa perte est un coup dur pour tout le monde. La date d'exécution de James a plusieurs fois été repoussée suite à diverses requêtes de ses avocats au fil des années, mais une date est à ce jour fixée pour le 20 mai 2020. Et si James vient à être exécuté, je ne manquerai pas de vous en informer sur Twitter ou Instagram. Suite à la mort de Sierra, sa famille a lancé une pétition demandant à ce qu'un registre des délinquants sexuels et violents soit créé dans l'état d'Ohio. La pétition a reçu plus de 13 000 signatures. En 2017, la loi Sierra a été présentée au Sénat de l'Ohio et en 2018, elle a officiellement été promulguée. Les délinquants sont donc depuis la mort de Sierra enfin fiché dans l'état d'Ohio, ce qui permet enfin de savoir si l'un d'entre eux était dans le coin au moment d'un crime. Une association Justice pour Sierra a également été créée. Elle organise régulièrement dans les écoles des cours de self-défense pour apprendre aux enfants, adolescents et jeunes adultes à se défendre en cas d'agression. Le FBI qui a suivi de près l'affaire s'est bien évidemment demandé si James avait pu réellement attendre 26 ans entre l'enlèvement de Robin et le meurtre de Sierra. Et ils se sont tellement posé la question que la famille de Sierra, qui a hérité du domaine de James en guise de règlement judiciaire, eh bien le FBI s'est mis à retourner toute la propriété à la recherche de corps ou d'indices permettant de savoir si James était ou non un tueur en série. À ce jour, le FBI et la famille de Sierra sont restés extrêmement silencieux à propos de leur fouille sur la propriété de James. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au bout, mettez Grange en commentaire puisque Sierra a été retenue plusieurs heures, voire
plusieurs jours dans une grange en fonction de quand James s'est débarrassé d'elle, mais ça on ne le saura jamais. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne. On se retrouve sur Twitter et Instagram pour ceux qui voudraient suivre les news des prochaines HVF. C'était Max Guys, on se voit vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye.
Listen to this Acast show ad-free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.